Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire des Rosenberg. Julius et Estelle, un couple d'Américains accusés d'espionnage, condamnés à mort, puis exécutés. Une affaire devenue le symbole de l'hystérie anticommuniste des années 50 aux États-Unis. Nous sommes au début de la guerre froide, en 1950 donc, lorsque ces deux sympathisants communistes new-yorkais sont arrêtés par le FBI. Très vite, les enquêteurs se persuadent que les Rosenberg sont à la tête d'un important réseau d'espionnage soviétique qui aurait donné des informations top secrètes sur le programme atomique militaire américain. Il faut dire qu'en cette année 50, l'Amérique a peur. L'expansion de l'influence soviétique semble inexorable. Dans ce contexte, l'opinion publique se passionne et se déchire autour de l'affaire Rosenberg, qui croise et qui parfois incarne certains épisodes cruciaux de l'histoire du XXe siècle. C'est aussi une affaire qui permet de mieux comprendre comment le monde s'est organisé à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est aussi un doute qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. Les Rosenberg, coupables ou innocents? Notre invité aujourd'hui, Michel Müller, ancien journaliste à l'Humanité, spécialiste des États-Unis. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Ballandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Le 19 juin 1953, soleil oblique de fin d'après-midi sur les rives de l'Hudson dans l'État de New York. C'est ici, à 50 km au nord de la Grosse Pomme, que se dresse la grande prison de Sing Sing, un imposant pénitencier dans lequel sont entassés 2000 détenus. Ce vendredi-là n'est pas tout à fait comme les autres. Deux prisonniers vont mourir, électrocutés, une femme et son mari, Ethel et Julius Rosenberg. Ils sont accusés d'un des pires crimes possibles aux États-Unis en cette période de guerre froide, haute trahison et coopération avec l'ennemi, autrement dit, espionnage. On reproche au couple d'avoir donné aux Russes des informations capitales sur la bombe atomique américaine. Les Rosenberg avaient été arrêtés 3 ans plus tôt, en 1950, dénoncés par David Greenglass, le frère cadet d'Ethel. En 1951, leur procès avait passionné l'opinion. Et après 3 semaines de débat, ils avaient été condamnés à mort. Depuis, ils n'ont fait que clamer leur innocence. Et désormais, tous les recours sont épuisés. Ce 19 juin 1953, de nombreux journalistes arrivent à Sing Sing. Ils sont venus couvrir le dernier chapitre de cette affaire. En milieu d'après-midi, la télévision américaine énumère les derniers préparatifs au sein de la prison new-yorkaise.
Entre les murs de la prison de Sing Sing, les Rosenberg ont attendu toute la journée de connaître leur sort. Cela fait maintenant 2 ans qu'ils ont été condamnés à mort pour avoir révélé des secrets atomiques à la Russie. L'aumônier juif de la prison vient d'arriver. Il ne ressortira pas avant la fin de l'exécution, qui se tiendra avant le coucher du soleil, qui marque le début du Shabbat. Une amie du couple ressort après avoir parlé à Ethel Rosenberg. Elle dit que l'accusée refuse de croire qu'elle va mourir et qu'elle martèle son innocence. Les policiers sont postés autour de la prison pour empêcher toute manifestation. Des heures défilent lentement.
En début de soirée, le protocole est lancé. Il est prévu que Julius passera le premier. Les seuls témoins de l'exécution extérieure à la prison sont 3 journalistes. Ils s'installent dans la chambre de mort, quelques mètres face à l'imposante chaise électrique. Un peu avant 20h, Julius pénètre dans la pièce, accompagné par le directeur de la prison, une poignée de gardes et l'aumônier juif de Sing Sing. Âgé de 35 ans, l'homme porte une petite moustache, des cheveux courts et des lunettes cerclées. Il semble résigné. Lorsqu'il voit la chaise, il devient pâle, mais il reste silencieux. On l'assoit sur la machine, le rituel macabre de la préparation du condamné débute. Un garde rase une partie des jambes de Julius, fixe les électrodes au mollet, puis à la tête. Ensuite, un masque en cuir est placé sur le visage du condamné. Il permet d'épargner aux témoins les contorsions involontaires et l'éclatement des yeux provoqués par le choc électrique. À 20h, le rite barbare est à son comble, comble de l'horreur. Oui, le bourreau active le circuit, 2000 volts parcourent le corps de l'homme. Julius se tord de douleur, tous ses muscles se contractent. L'odeur de chair brûlée se répand dans la pièce, la température du corps monte jusqu'à 100 degrés, le sang entre en ébullition. Après 6 longues minutes, Julius Rosenberg est déclaré mort, puis emmené à la morgue. La chaise est ensuite préparée pour une nouvelle exécution. Un garde essuie l'urine qui a coulé sur le siège avec une solution à l'ammoniaque. Maintenant, vient le tour d'Ethel. Les journalistes la regardent entrer dans la pièce. C'est une petite femme de 37 ans, aux cheveux bouclés et aux pommettes saillantes. Elle semble étonnamment calme. Elle embrasse l'une de ses gardes avec qui elle s'est liée d'amitié, puis serre la main des autres comme si elle partait en voyage. Contrairement à son mari, elle gagne la chaise elle-même. Même procédure, barbarie deuxième acte, on dispose des électrodes, et elle se laisse faire, les yeux fixés sur les trois reporters. Son expression sereine les trouble. Alors, la première décharge est lancée, il en faudra trois supplémentaires pour qu'elle meure. Une indicible torture de près d'un quart d'heure. Dans tout le pays, la nouvelle de l'exécution suscite une forte émotion. En France, l'affaire passionne tout autant, comme le montre ce reportage de l'ORTF.
Un drame, cependant, vient de jeter un nuage sur ce début d'euphorie de l'esprit occidental. Condamné à mort dans les formes juridiques depuis 2 ans pour livraison de secrets atomiques, et après avoir usé de tous les recours, Ethel Rosenberg et son mari Julius Rosenberg convoitent ici le jour de leur arrestation. Ont subi la peine de mort malgré tous les appels à la clémence. Ils avaient attendu pendant 2 ans l'heure du supplice.
La mort de Rosenberg clôt l'une des affaires d'espionnage les plus retentissantes du XXe siècle, la seule ayant donné lieu à une condamnation à mort de civil en temps de paix. Or, aujourd'hui encore, la question subsiste. Les Rosenberg sont-ils coupables ou innocents? Une chose semble certaine, ils se sont aimés passionnément. Ethel et Julius, leurs prénoms sont indissociables depuis leur rencontre à Manhattan 17 ans plus tôt. En 1936, au cours d'une soirée de gala du syndicat des marins de New York, Julius Rosenberg fait la connaissance d'Ethel Greenglass. Lui est un jeune homme de 18 ans, né de parents juifs, ayant fui l'Empire russe. Il fait ses études au New York City College, il veut devenir ingénieur. Elle a 21 ans, elle vient également d'une famille juive. Leurs idées politiques sont déjà affirmées, ils sont proches de l'idéal communiste. Leur engagement politique les unit, et très vite, ils se mettent en ménage. À cette époque, les États-Unis traversent une crise économique sans précédent. Après le crash boursier de 1929, la Grande Dépression s'affiche en une des journaux. Tout comme le jeune couple, les Américains sont alors de plus en plus nombreux à critiquer le capitalisme et à se tourner vers la doctrine socialiste. Les syndicats s'organisent et les grèves se multiplient. En février 39, Julius obtient son diplôme d'ingénieur et milite au sein d'une fédération syndicale new-yorkaise. Quelques mois plus tard, il épouse Ethel et trouve un emploi d'ingénieur civil sur une base militaire du New Jersey au service des transmissions de l'armée américaine. Il est un employé réservé, sérieux et apprécié de ses collègues, mais aussi un militant idéaliste qui rêve de grands soirs. Bientôt, de l'autre côté de l'Atlantique, la guerre éclate. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Par le jeu des alliances, le conflit s'embrase. Le monde tombe dans l'abîme et emporte dans sa folie la vie de plus de 60 millions de personnes.
Malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde, le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. Dans sa première agression armée, a commencé la guerre, a commencé la mort, a commencé la misère qui devait prendre fin sur son propre sol. L'Angleterre et la France ont déclaré la guerre. Ce ne sont pas seulement les nations qui font la guerre, ce sont les peuples qui subissent la guerre, tels les peuples français et britanniques. Ce sont les peuples qui perdent leurs enfants, leur foyer, leur travail, et en la paix de leurs vieux jours.
De sa maison de Princeton, un scientifique réfugié d'origine allemande écrit au président Roosevelt. Il l'informe qu'il est désormais possible de construire une bombe à la puissance terrifiante, une bombe qui utilise l'énergie libérée par la fission atomique. Signé Albert Einstein. Le programme nucléaire américain est né. En décembre 1941, après l'attaque de Pearl Harbor, les États-Unis entrent officiellement en guerre contre l'Allemagne. À Washington, tout est mis en œuvre pour faciliter la recherche militaire. À la fin de l'année 1942, plusieurs sites sont choisis pour accueillir les laboratoires secrets de l'armée. Objectif : produire la première bombe atomique. Nom code : Projet Manhattan. Les recherches sont dirigées par le physicien Robert Oppenheimer. Le site le plus sensible est implanté dans le désert du Nouveau-Mexique, à Los Alamos, devenue zone interdite, comme l'explique le géopolitologue Sammy Cohen au micro de France Culture en février 2000.
Les sites étaient cloisonnés. Un site produisait de l'uranium enrichi, l'autre du plutonium, et puis celui de Los Alamos, plus particulièrement, s'occupait de la mise... de la fabrication, proprement parler, de la bombe atomique. Mmh. Bon, les autres sites ne savaient pas ce qui se passait. Et par conséquent, ils ont réussi, par ce cloisonnement, à préserver, et surtout en choisissant un site qui était complètement coupé de toute proximité d'une ville.
En plein désert, oui.
En plein désert. De, et donc,
pas loin de Las Vegas, je crois. Aussi,
voilà, oui, dans le Nouveau-Mexique. Ouais. Et par conséquent, il n'y avait pratiquement aucune communication entre le monde extérieur et Los Alamos.
De l'autre côté du pays, à New York, les Rosenberg occupent un trois pièces dans un immeuble moderne au cœur du quartier où ils ont grandi. Début 1943, Julius allait au Parti communiste américain avant de le quitter trois mois plus tard. Il ne le sait pas encore, mais cette adhésion de courte durée aura des conséquences dramatiques, et pour lui et pour sa femme. Notons qu'en 1943, le communisme n'est pas encore perçu comme une doctrine diabolique. Non, les États-Unis et l'URSS de Staline sont alliés, et l'armée américaine se concentre surtout sur l'ennemi nazi. Les Rosenberg sont proches du frère d'Ethel, David Greenglass, et de sa femme Ruth. Tous les quatre partagent les mêmes idées politiques. David est mécanicien, et comme Julius, il travaille pour l'armée américaine. En 1944, Greenglass est envoyé sur la base secrète de Los Alamos pour le projet Manhattan. Là-bas, des milliers de scientifiques travaillent d'arrache-pied, et les recherches portent leurs fruits. La première bombe A, appelée Trinity, explose dans le désert du Nouveau-Mexique le 16 juillet 1945. À peine trois semaines plus tard, les 6 et 9 août, deux bombes atomiques sont larguées sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. 200 000 morts. Le monde entre dans une nouvelle ère. Les États-Unis révèlent leur maîtrise de l'arme nucléaire. Et pour le président Truman, l'Amérique doit impérativement conserver ce monopole. De ce point de vue, Hiroshima et Nagasaki ne constituent pas l'acte final de la Deuxième Guerre mondiale, mais l'acte 1 de la guerre froide. Et dès lors, on s'interroge, faut-il que les Américains soient les seuls à posséder l'arme atomique ? Fin octobre 1945, la question est posée sur les ondes de la radiodiffusion française.
Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de la fête de la marine, M. Truman a déclaré que les États-Unis garderaient le secret de la bombe atomique. Il est évident que le fait qu'une seule des Nations Unies connaisse le terrible secret de détruire des villes entières et d'anéantir d'immenses populations peut être interprété par les autres comme une mesure de méfiance et éventuellement comme une menace. S'il est entendu que la sécurité de tous sera désormais garantie par l'assistance de chacun, il peut apparaître comme assez paradoxal qu'un seul détienne l'arme de guerre qui par sa seule puissance étouffera dans l'œuf toute velléité d'agression.
Pour Staline, le monopole atomique des États-Unis est évidemment intolérable. Dès lors, les services de renseignement russes, le KGB, envoient de nombreux agents dans tous les États-Unis. L'objectif, bien sûr, étant de récupérer des informations sur la technologie nucléaire. Entre les alliés d'hier, rien ne va plus. Bientôt aux États-Unis, le fait d'être communiste ou même d'avoir été membre du parti est considéré comme suspect. D'ailleurs, en 1945, l'armée découvre que Julius Rosenberg a été adhérent du PC. Eh bien, il est renvoyé sur le champ. En 1946, son beau-frère, David Greenglass, est démobilisé de l'armée et retourne à New York. Les deux hommes s'associent et montent une entreprise de réparation électrique. Au même moment, le président Truman propose un plan pour limiter l'expansion du communisme. La rupture Est-Ouest semble inexorable. Et pour le bloc occidental, il faut à tout prix conserver l'avance technologique sur les Russes. Dans un discours devenu célèbre, le premier ministre britannique Winston Churchill se prononce contre la diffusion du secret de la bombe atomique.
Si les États-Unis consentaient à détruire leur stock de bombes atomiques, ce serait assassiner la liberté et pour l'Amérique, ce serait du suicide. Aujourd'hui, rien ne peut s'opposer en Europe à la tyrannie communiste, sinon la bombe atomique américaine.
Oui, mais en face, les scientifiques russes progressent rapidement. Le 29 août 1949, un premier essai nucléaire soviétique est effectué. Staline exulte. Les autorités américaines, elles, sont consternées et l'opinion publique est en plein désarroi. À Washington, dans les hautes sphères, ils sont nombreux à penser que les communistes n'ont pas pu faire de progrès aussi fulgurants sans la complicité de citoyens américains. Alors, qui a livré les précieux secrets militaires ? Une chose est sûre, il faut à tout prix identifier les espions infiltrés par l'Est. Sous l'impulsion du sénateur Joseph McCarthy, une intense répression est menée contre les communistes américains. La chasse aux sorcières est lancée. Le FBI de Edgar Hoover se met à traquer tous les ennemis intérieurs, c'est-à-dire potentiellement tout le monde. Des agents du renseignement américain réussissent à décrypter certains messages codés des espions soviétiques. Et là, un nom arrive à leurs oreilles. Klaus Fuchs. Cet homme est un physicien d'origine allemande, un sympathisant communiste qui a travaillé dans la fameuse base de Los Alamos en compagnie de Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique américaine. Dans une interview de 1992, Pavel Soudoplatov, un ancien espion russe du KGB, raconte les liens qui unissaient Fuchs à Oppenheimer et les motivations qui ont poussé Fuchs à collaborer avec l'URSS.
Est-ce que Oppenheimer connaissait l'état d'esprit et la sympathie que Fuchs portait à l'URSS ? Peut-être qu'il connaissait son état d'esprit. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'il savait que l'autre était lié au renseignement soviétique. Les renseignements soviétiques ne le mentionnaient nulle part. C'était l'amitié avec l'URSS, l'estime envers l'URSS, une volonté sincère d'aider l'URSS à ne pas être désarmée devant un ennemi si dangereux, une arme si dangereuse comme la bombe atomique.
En janvier 1950, Klaus Fuchs est arrêté. Lors de son interrogatoire, il avoue, oui, il a bien communiqué des informations sur la bombe atomique à l'URSS. Il donne aussi le nom d'un complice, Harry Gold. Les enquêteurs arrêtent donc ce Harry Gold. C'est un chimiste d'origine russe, réfugié aux États-Unis, lui aussi. Avoue son implication dans la transmission d'informations militaires à l'ennemi soviétique. On lui présente alors une série de photos. Sur l'une d'elles, il reconnaît l'un de ses contacts, David Greenglass, le frère d'Ethel Rosenberg. Les agents du FBI découvrent qu'il a travaillé sur le site nucléaire de Los Alamos, mais aussi qu'il était militant communiste. Ça fait beaucoup. Le 15 juin 1950, David Greenglass est arrêté par le FBI. L'homme reconnaît les faits. Oui, il a bien volé des secrets atomiques de septembre 1944 jusqu'à la fin de son contrat en 1946. Maintenant, s'il veut sauver sa tête, il a tout intérêt à donner des noms. Il en donne un, justement. Julius Rosenberg, son beau-frère.
Sensible. Fabrice Drouel.
Le 16 juin 1950 à l'aube, après la dénonciation de David Greenglass, les agents du FBI se rendent chez les Rosenberg et arrêtent Julius. Lors de son interrogatoire, il se déclare innocent, il est formel. Et comme aucune charge n'est retenue contre lui, il est relâché quelques heures plus tard. Mais les agents américains poursuivent leurs investigations sur Julius. Pendant un mois, ils le maintiennent en surveillance permanente. Mais bientôt, la menace rouge prend une nouvelle tournure à cause d'un événement à l'autre bout du monde. 9 jours plus tard, en effet, le 25 juin, la Corée du Nord communiste, donc soutenue par Moscou, envahit le voisin du Sud. La guerre de Corée débute. À Washington, les officiels s'inquiètent de la situation et de l'expansion inexorable, pensent-ils, des communistes. 2 jours plus tard, le 27 juin, le président Truman prononce un discours lyrique pour l'envoi de troupes américaines.
Korea is a small country, thousands of miles away, La Corée est un petit pays à des milliers de kilomètres. Mais ce qui se passe là-bas concerne chaque Américain. Une telle agression met en péril la sécurité de toutes les nations libres. Une réaction rapide des Nations Unies pour réprimer une agression illégale en libérant les peuples du monde entier fera date dans la longue quête de l'humanité pour voir régner le droit au sein des nations. For a rule of law among nations.
Pendant l'été 1950, des milliers de soldats américains sont envoyés en Corée. On chasse les communistes en dehors des frontières, mais aussi à l'intérieur. Ainsi, l'enquête sur les Rosenberg continue et devient même un enjeu important pour les autorités. À New York, le 15 juillet, David Greenglass est à nouveau entendu par les agents fédéraux. Cette fois, il fait une longue déposition et donne des détails. Il assure que son beau-frère l'a recruté en 1944 par l'intermédiaire de sa femme, Ruth. Selon Greenglass, Julius est le chef d'un véritable réseau d'espionnage. Il centralise les informations qu'il transmet ensuite au vice-consul soviétique à New York par l'intermédiaire d'Harry Gold. Cependant, Greenglass tient à protéger sa sœur, Ethel. Il assure qu'elle n'est pas impliquée. Les agents du FBI ont désormais suffisamment d'éléments pour inculper Julius. Deux jours plus tard, le 17 juillet, c'est chose faite. Julius Rosenberg est à nouveau arrêté, mais cette fois, il est inculpé de conspiration en vue d'espionnage. Il est mis sous les verrous et il risque la prison à vie. Cependant, à la différence de son beau-frère David, il clame son innocence encore et toujours. Le patron du FBI, Edgar Hoover, est contrarié, alors il s'occupe personnellement du dossier, convaincu qu'il y a un véritable réseau derrière Rosenberg et que tout doit être mis en œuvre pour qu'il donne les noms, oui, les noms de ses complices. Le 19 juillet, Hoover envoie une note confidentielle au ministre de la Justice. Il fait part de sa tactique tout en cynisme pour décrocher les confessions de Julius.
Il n'y a pas de doute que si Julius Rosenberg nous fournit des détails sur ses activités d'espionnage, nous serons en mesure d'inculper d'autres individus. De ce point de vue, la mise en accusation de sa femme pourrait nous servir de levier.
Trois semaines plus tard, le 11 août, Ethel Rosenberg est arrêtée. Elle est réduite au silence dans une cellule à l'isolement complet. Voilà, les Rosenberg sont sous les verrous. Leur procès doit se dérouler 7 mois plus tard. Il sera présidé par le juge Kaufmann. 1 mois avant l'ouverture de l'audience, une curieuse réunion se tient à New York. 28 officiels, dont 5 sénateurs, 6 députés et surtout le président du tribunal Kaufmann, discutent du sort des Rosenberg. Ils conviennent que le seul moyen de faire céder Julius est que celui-ci donne des noms et de la menacer, de le menacer de la chaise électrique, mais aussi de condamner Ethel à une peine maximale. Le 6 mars 1951, le procès de Rosenberg s'ouvre à New York. L'accusation est menée par le procureur général Irving Seipel, un anticommuniste fervent, baptisé par les médias « Terreur des Rouges ». Selon lui, les Rosenberg sont bien des agents du diable et ils méritent la chaise électrique. Il va donc tout faire pour que la charge de haute trahison soit ajoutée à l'accusation. Et, si celle-ci est avérée, la peine de mort pourra alors être requise. Son discours préliminaire fait ainsi et délibérément l'amalgame entre l'inculpation de conspiration et celle de haute trahison.
Cette affaire est d'une importance capitale. Les preuves établiront que les Rosenberg ont dédié leur vie à la cause communiste. Cet amour pour la doctrine communiste et l'Union soviétique en ont fait des espions. Nous prouverons que les Rosenberg ont planifié et mis en œuvre, avec l'aide d'agents russes, un projet élaboré qui leur a permis de voler à travers David Greenglass la seule et unique arme qui tient la clé de la survie de cette nation, la bombe atomique.
De son côté, le juge Kaufmann ne semble pas très enclin à respecter les droits des accusés. Ainsi, alors qu'il est interrogé par un journaliste après l'ouverture du procès, il fait cette déclaration limpide. quand on doit juger des espions à la solde de Moscou, les précautions juridiques sont inutiles. On écoute, on juge et on condamne. En tout, 118 témoins sont attendus à la barre durant les 3 semaines d'audience. Mais le témoin clé, c'est bien David Greenglass, frère d'Ethel Rosenberg. En échange d'une promesse d'immunité pour sa femme, Ruth, il accepte de livrer sa version et il assure qu'il a été recruté par Julius en 1944 alors qu'il travaillait sur la base secrète de Los Alamos. Cependant, un détail change par rapport à son interrogatoire par les FBI. Cette fois, il déclare que sa sœur Ethel a joué un rôle actif dans le réseau, notamment en prenant des notes destinées aux soviétiques. Ruth, la femme de David, confirme les accusations de son mari. Un peu après, c'est au tour de Harry Gold d'incriminer Julius. Stupeur dans la salle d'audience. Et puis les Rosenberg sont entendus par la cour. Malgré la pression portée par l'accusation, ils clament haut et fort leur innocence. Et lorsqu'on demande à Julius s'il a fait partie d'une organisation communiste, il invoque le 5e amendement et se réfugie dans le silence. Un silence forcément coupable pour le procureur Seipel. Sur les 118 témoins de l'accusation, seulement 3 incriminent nommément les Rosenberg. Le couple Greenglass et Harry Gold. Concernant Julius, en réalité le dossier est maigre, aucune preuve matérielle n'est avancée. Et pour Ethel, il est quasi vide. Mais l'actualité plane sur le procès. La guerre de Corée commençait 6 mois plus tôt. La fièvre anticommuniste est à son comble en cette année 1951. Après 3 semaines de procès, les débats sont terminés. Et le 29 mars, le jury se retire pour délibérer. Dans son réquisitoire, le juge Erwin Kaufmann n'hésite pas à jouer avec les peurs du public et à utiliser la guerre dans son argumentaire. Une guerre qui, selon lui, n'aurait jamais eu lieu si les Russes n'avaient pas eu la bombe atomique. Ainsi, avant de prononcer la sentence, le juge Kaufmann déclare
« Selon moi, la manière dont vous avez agi en remettant aux mains des Russes la bombe A et en permettant ainsi à la Russie de mettre au point la bombe des années avant ce qu'avaient prédit nos meilleurs scientifiques a déjà eu pour conséquence l'agression communiste en Corée, laquelle a causé plus de 50 000 victimes américaines, et qui sait si des millions d'autres innocents ne paieront pas le prix de votre trahison. »
Le 5 avril 1951, les Rosenberg sont condamnés à mort. En Amérique, l'opinion est divisée, mais la paranoïa entretenue par McCarthy et Hoover fonctionne, et ils sont nombreux à se réjouir de la sentence. Les Rosenberg, eux, continuent de crier leur innocence. Jamais ils ne changeront de version. En France, de nombreux journalistes et intellectuels se laissent convaincre de l'innocence des accusés et prennent ouvertement la défense du couple Rosenberg. Les communistes, mais aussi les libéraux de droite comme de gauche, réclament leur grâce. De ce côté-ci de l'Atlantique, l'opinion publique est unanime, ou presque, pour fustiger la justice américaine. Le philosophe Jean-Paul Sartre maudit le peuple américain et se fend d'une diatribe dont il a le secret.
Attention, l'Amérique a la rage. Tranchons tous les liens qui nous rattachent à elle. Sinon, nous serons à notre tour mordus et enragés.
Dans la foulée du verdict, les procès de Greenglass et de Harry Gold se tiennent à New York. Grâce à leur collaboration avec le pouvoir américain, ils obtiennent des peines beaucoup plus clémentes. Harry Greenglass est condamné à 15 ans, sa femme Ruth ressort libre. Harry Gold, lui, est condamné à 30 ans de prison, mais avec la possibilité d'obtenir une libération conditionnelle au bout de 15 ans. Quant aux Rosenberg, ils sont transférés à la prison de Sing Sing. Ils s'échangent de nombreuses lettres d'amour et continuent de crier leur innocence. Début 53, l'avocat du couple demande au nouveau président américain Eisenhower une grâce pour ses clients. Refusé. Le 19 juin 1953, Julius et Ethel meurent sur la chaise électrique. Dans les années qui suivent, l'affaire continue de passionner l'opinion et génère des débats enflammés entre les partisans d'innocence du couple et ceux qui restent convaincus de leur culpabilité. En 1995, 42 ans après leur mort, des documents secrets défense américains et russes sont déclassifiés. On apprend alors que Julius Rosenberg semblait bel et bien figuré sur la liste des agents soviétiques, mais à un échelon bien plus modeste que celui qu'on lui a prêté lors de son procès. Mais si Julius était un espion, que dire du rôle d'Ethel ? Et bien quelques mois plus tard, en 1996, David Greenglass, alors âgé de 74 ans, est interrogé par un journaliste du New York Times. Il déclare avoir menti sous serment lors du procès de 1951 à propos de l'implication de sa sœur Ethel afin de protéger sa femme Ruth. Alors, Ethel Rosenberg était-elle innocente ?
The pale horse coming. I'm gonna ride it. I'll rise in the morning. My fate decided. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. In St. James Parish, I was born and christened. I've got my story, mister, ain't no need for you to listen. It's just a dead man talking. Once I had a job, I had a good. Between our dreams and actions lies this world. In the deep forest, their blood and tears rushed over me. All I could feel was the drugs and the shotgun, and my fear up inside of me, like a dead man talking. Beneath the summer sky, my eyes went black. Sister, I won't ask for forgiveness. My sins are all I had. And the clouds above my prison move slowly across the sky. There's a new day coming. And my dreams are full tonight.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Rosenberg avec notre invité Michel Muller. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été longtemps journaliste à l'Humanité, pour lequel vous avez couvert de nombreux sujets de politique internationale. À ce titre, vous avez écrit plusieurs articles sur les Rosenberg et la fièvre anticommuniste qui régnait sur le sol américain dans les années 50 et surtout au lendemain de la guerre. Mais cette paranoïa anticommuniste, elle remonte à bien avant.
Oui. Il faut voir qu'aux États-Unis, premièrement, l'État américain n'a pas été constitué comme le nôtre. Et je crois qu'il faut remonter vraiment à cette origine-là. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais
non,
à, mon avis,
c'est l'histoire.
À mon avis, en France, le pouvoir est venu du centre vers la périphérie. Louis XIV a dit « l'État, c'est moi ». Aux États-Unis, c'est les États fédéraux qui disent « l'État, c'est nous ». Et donc l'État centralisé n'est devenu que ce qui était en plus. Et avait comme objectif, effectivement, d'organiser un peu les choses entre les différents États. Ceci a fonctionné pendant assez longtemps, mais avec la révolution industrielle et donc une sorte de mondialisation locale, les grands trusts économiques, les grandes entreprises et les banques avaient besoin d'une règle plus générale et d'un contrôle plus précis de l'État. Et partant de là, effectivement, dès 1908, on crée le bureau. Le bureau, à l'époque, le bureau d'information, à l'époque, n'était pas le bureau fédéral d'information, mais c'était cela, dont l'objectif était effectivement d'arriver à un contrôle social pour contrôler d'une part les mouvements qui se trouvent dans les États fédérés, qui peuvent arriver de grèves, des mouvements sociaux, puisque les grèves aux États-Unis, la première date de 1876. Et il y a cette idée qu'il faut arriver à un peu réglementer tout ça et contrôler tout ça. Mmh. C'est-à-dire que dès le début, ce que chez nous on appelle les renseignements généraux dans le temps, n'avait pas de rôle seulement policier d'information,
mais
avait un rôle politique et un rôle de contrôle.
Politique,
il dépendait du ministère de la Justice.
Et à partir du moment, alors, d'accord, et ce fonctionnement-là, à partir du moment où l'idée communiste apparaît, va mettre les bouchées doubles, évidemment, mais à partir de quel moment?
Même avant. Dès la guerre de 14, on se pose la question justement sur ces mouvements sociaux, en particulier des gens, des mouvements du côté ouvrier en particulier, qui étaient pacifistes et disaient « la guerre ne nous regarde pas ». Et l'entrée aux guerres des États-Unis a obligé, d'une part, le pouvoir à effectivement avoir un contrôle politique plus important de la société, mais d'autre part, effectivement, avec la révolution soviétique, la question commençait par autrement. Et on a eu, entre 1919 et 1920, une vague formidable de ce qu'on pourrait appeler... C'était pas tout à fait de l'anticommunisme au sens où on l'entend aujourd'hui, parti communiste, etc., mais ce qu'on a appelé la peur des rouges, la peur rouge.
Mais en même temps, d'accord, alors en même temps, l'idée communiste, l'idée révolutionnaire issue de 1917, elle commence à séduire de plus en plus de gens aux États-Unis, les Américains.
Surtout qu'il y avait un mouvement socialiste qui préexistait.
Oui.
Et qui a effectivement été à la base de nombreuses grèves et de nombreux mouvements sociaux dès les années 1917-18. Et donc, tout ça, ça intervient, et la création d'un parti communiste en 1919, comme partout ailleurs, permet en quelque sorte de solidifier toute cette chose-là. Avec, parallèlement, un mouvement anarchiste et anarchiste très important, ils n'étaient pas opposés, ils étaient... Cousins, peut-être.
Bon. Oui. Alors, les Rosenberg, comment se positionnent-ils dans ce bouillonnement idéologique et politique?
Alors, par ailleurs, il faut voir que...
J'ai un peu vite dans le temps, parce que comme on n'a que 10 minutes, un quart d'heure.
Les Rosenberg sont des enfants de Russes. Et l'émigration juive aux États-Unis est une émigration avant tout de fuite devant les pogroms. Mais, et donc, avant tout, dès le départ, dans les années 20, même avant, puisque les premières immigrations datent de la fin du 19e, ces Juifs, comme d'autres immigrés, s'insèrent dans la société très vite et deviennent, il y a beaucoup de cadres, beaucoup de banquiers, mais en même temps, il y a un mouvement ouvrier très puissant et qui est très inspiré par les Lumières juives, c'est-à-dire la révolution juive qui sortait du ghetto, qui sortait du shtetl, comme on dit maintenant. Ouais. Et donc, ces gens-là, ils étaient en quelque sorte le sel de la terre dans ce mouvement-là. Mmh. Et très rapidement, d'ailleurs, le Parti communiste, la grande majorité des communistes, même et surtout dès les années en 40, c'était des juifs.
Alors, est-ce que ça veut dire que dans la condamnation des Rosenberg, il y a de l'anticommunisme, est-ce qu'il y a aussi de l'antisémitisme? Est-ce qu'il y a une dimension antisémite ou pas du tout?
Pas directement, mais elle est en permanence sous-jacente.
Ouais.
Les Juifs étaient, à ce moment-là, considérés comme une minorité ethnique, ou raciale, comme on disait à l'époque. Et donc, en tant que tels, par exemple, comme les Noirs, ils n'avaient pas le droit d'être jurés, parce que c'était des minorités. Il y a toute une série de choses de ce genre-là. Mais les Juifs étaient avant tout des Juifs urbains, et dans les villes, dans la population, il n'y avait pas vraiment d'antisémitisme. Mais c'était sous-jacent. Et la religion, elle,
le
chrétienne.
Oui, chrétienne a été utilisée très vite. Il faut pas oublier que, par exemple, je prends des exemples. Deux grands personnages à l'époque fonctionnaient par la télévision, les preachers, comme on disait, les télévangélistes, comme on dit. Il y avait Billy Graham qui lui expliquait que le communisme, c'est la religion de l'antéchrist. Et donc, partant de là, surtout qu'il se présente sous la forme d'un grand humanisme, il est extrêmement dangereux et mortel. Pour le télévangéliste, son pendant catholique, Monseigneur Fulton Sheen, dit « Soit le communisme meurt, soit le catholicisme meurt, parce que c'est une bataille entre le Christ et ce qui est antéchrist. » Cette idée-là, c'est ça ce qui dominait.
Ouais.
C'est-à-dire que juif et antéchrist, tout ça, ça se mêle dans les têtes. Mais sans que ce soit dit à l'époque, on ne peut pas parler de campagne antisémite comme on en a connu par la suite et aujourd'hui actuellement.
Très bien, c'est clair. Alors, cette paranoïa, cette peur du communisme comme l'antéchrist. En 1955, je crois que vous avez 17 ans, vous partez étudier en Louisiane, c'est ça? Et vous arrivez quelque chose, je crois, qui illustre ça.
Oui, alors, j'ai suivi des cours à l'université de Lafayette et il y avait par chance une très grande bibliothèque francophone, française. Et avec énormément d'ouvrages, et d'ouvrages récents, j'en ai profité pour lire Sartre, Cocteau, etc., tous ces gens-là, et Bergson, ce que j'avais pas appris à l'école. Et à mon retour, je suis parti en bateau de New York, avant d'aller, j'ai été convoqué par une sous-commission des activités anti-américaines qui continue à fonctionner un peu partout dans tous les ports. Et on m'a demandé « Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre séjour ?» Je dis « Ben, j'ai lu j'avais des profs qui, etc. » Et ils me disent « Oui, mais vous avez lu quoi ?» Alors, j'étais totalement innocent politiquement parlant. Mais je me suis dit « Il faut se méfier quand même. » Et je cite Bergson. Et on me dit « Mais c'est un juif. » Je dis oui. Et
oui, alors.
non seulement il est juif, mais il s'est converti au catholicisme et il a réaffirmé sa judéité par protestation contre les crimes nazis, contre le nazisme. Mm-hmm. Et on me dit oui, mais c'est donc un communiste. Et c'est là où apparaît la chose. Bien sûr qu'on m'a laissé passer, il n'y a pas eu de problème. Mais en 55, à Lafayette, à la Nouvelle-Orléans, il y a eu une autodafé, par exemple, d'une bibliothèque privée d'environ un millier de livres, soi-disant qu'ils étaient communistes. C'est dans cette ambiance-là que les choses se passaient. Et vous parliez de guerre froide. Moi, je préfère utiliser le terme l'équilibre de la terreur.
Oui, c'était aussi un autre terme utilisé.
Parce qu'il y avait la terreur dans les têtes,
ouais,
de part et d'autre, qui était manipulable totalement par ceux qui voulaient en faire autre chose.
Alors, il y a quand même, à cette époque-là, de l'affaire Rosenberg, il y a la guerre de Corée. Alors, c'est typiquement une guerre chaude de la guerre froide. Hein.
Oui.
Et ça joue un rôle, oui, quand même. Les Rosenberg, ils sont jugés à ce moment-là et ça tombe très mal, oui, pour eux. Vous confirmez?
Oui. Alors, la guerre de Corée intervient. C'est la première fois où, effectivement, les soldats américains sont engagés directement face à ce qu'on appelait le communisme. Bon, jusque-là, en 45-46, les sondages, en particulier du Pew Center, les études d'opinion, donnaient à peu près 1% de la population qui était vraiment inquiète de l'intervention d'une subversion communiste aux États-Unis.
Ouais.
Ce qui prouve bien qu'on n'était pas... C'est bien plus l'équilibre de la terreur de la bombe atomique qui fonctionnait. Et en Corée, ce qui était effectivement catastrophique pour les fauteurs de guerre américains, et en particulier Truman qui voulait, il ne voulait pas faire la guerre directement aux Soviétiques, parce qu'il y avait la bombe atomique. Et ça, ça a compté dès le début.
D'ailleurs, l'équilibre de la terreur veut dire ça aussi.
Oui,
dire,
ben justement, la terreur, si tu envoies une bombe, moi je te renvoie une.
Et donc, ça rend impossible l'envoi des bombes.
Oui, avec quand même des plans qui préexistaient de bombardement tapis en bombe atomique sur l'Union soviétique, qui dataient des années 46-47.
Oui, en attendant, les deux rangs se sont fait la guerre par pays du tiers monde interposé.
Bien sûr, et c'est malheureusement le drame de ces 50 ans qu'on a vécu. Oui. Et il se trouve que on sait que MacArthur, le général MacArthur, chef des troupes au Corée, voulait utiliser la bombe atomique. Ouais. Mais Truman l'a démis de ses fonctions très vite parce que, effectivement, c'était devenu trop dangereux.
Est-ce qu'on peut dire...
On peut revenir sur les Rosenberg.
Alors, oui, j'allais faire.
Et avec les Rosenberg, justement, ils n'ont pas donné de secret atomique. C'était totalement impossible pour les Rosenberg. Et effectivement...
Vous êtes en train de me dire qu'on a exécuté deux innocents, là?
Non. Oh, innocents, oui. Certainement, parce que... politiquement coupable, disons. L'espionnage, à ce moment-là, pour l'Union soviétique, dans les années 40, n'était pas perçu comme un espionnage par l'opinion et par les gens en particulier qui pouvaient le faire. L'Union soviétique, c'était des alliés. Et il y avait tout un mythe qui se créait autour du travail avec ses alliés contre le nazisme, parce que c'était le nazisme qui était le danger pour l'humanité à ce moment-là. Et aussi, on en arrivait au fait que, par exemple, la rencontre des trois grands à Téhéran en 43, chez les communistes et au parti communiste, on disait « ça va changer le monde ». À l'issue de la défaite du nazisme, il y aura une paix générale où on se comprendra les uns et les autres et où la compétition deviendra pacifique. C'est-à-dire qu'il fallait contribuer à cette victoire. Et pour contribuer à cette victoire, effectivement, il semble que Rosenberg, Julius, ait fourni ce qu'il pouvait fournir à l'époque, c'est-à-dire des éléments de radar, etc., et c'est tout.
Oui.
Mais la bombe nucléaire, c'est pas eux. Il y en a d'autres qui effectivement, dans ce même esprit, et dans la crainte que s'il y en a un tout seul qui possède la bombe atomique, qui risque de faire des bêtises et de dominer le monde, ils ont effectivement choisi de livrer certains éléments, mais en même temps, du côté soviétique, on était aussi très avancé. Je ne veux pas mettre d'un côté les faibles et de l'autre côté les forts.
Bon, alors là, on a bien compris la motivation des Rosenberg. Ben, mais est-ce qu'ils savent à ce moment-là à quel point les Russes ont fait des progrès techniques rapides en plus? Rapides? Non.
Non, non. Parce qu'il n'y a pas d'information. Et ça va dans un sens, mais ça ne revient pas dans l'autre sens. Et la presse américaine ne faisait pas du tout état des progrès militaires, etc.
J'imagine.
C'est la bataille de Stalingrad, une fois de plus, qui a déclenché la nécessité d'accélérer l'intervention américaine.
Alors, le journal L'Humanité, à l'époque, devait être, il l'est, vu les archives, très impliqué dans cette affaire, parce que ça avait une dimension symbolique, politique très importante pour un journal comme L'Humanité. Comment on a vécu ça à L'Humanité?
Mais c'était, je ne pourrais pas le dire, j'étais bien trop jeune pour ce moment-là, puisque je suis rentré à L'Humanité seulement en 81.
Ouais, vous avez en parlé, il y a une culture d'un journal.
Oui, mais c'était une culture, ce que moi j'en ai ressenti par tous les ports, c'était une culture de la paix et du désarmement nucléaire. Et les Rosenberg étaient en même temps, effectivement à l'époque, le symbole du combat contre l'OTAN, contre cette hystérie anticommuniste du Clos qui a été mis en prison pendant 6 mois parce qu'on avait trouvé des pigeons dans sa voiture en 51, je crois. Alors que c'était des pigeons qui voulaient manger. Mais des choses pareilles qui se passaient à cette époque-là. On n'arrive pas à le comprendre.
Il y avait une paranoïa
anticommuniste. Ah oui, un délire. Et dans ce même sens, il y avait en même temps tout un mouvement, du fait de l'équilibre de la terreur et qu'on voulait en sortir, tout un mouvement pacifiste de désarmement nucléaire. C'est l'appel de Stockholm.
Oui, le fameux appel de Stockholm, bien sûr.
Où M. Chirac, à l'époque, avait
signé. Jacques Chirac l'a signé, oui. Il ne s'en est jamais caché, d'ailleurs.
Pour les Rosenberg, des gens comme Brigitte Bardot ont lancé des appels. Même Pie XII, qui pourtant n'était pas très pro-communiste.
Ouais, mais
c'était en même temps l'idée d'une paix, l'idée de revenir à cette idée de paix. Je crois que c'est le message d'aujourd'hui aussi.
Exactement, et ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, oui.
Alors, comme message de la paix, c'est
rapidement,
que...
Rapidement, rapidement.
Il y a deux jours, la municipalité de Paris
oui.
a signé l'appel pour le désarmement nucléaire de l'INCA.
Bien, merci beaucoup, Michel Muller. Pardon de vous bousculer, mais l'heure, c'est l'heure. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les époux Rosenberg, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Et merci à Arnaud Caillé qui était à la technique aujourd'hui.